Nous sommes mercredi 16 mai 2018, il est 20h30 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah
bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Drosgar.
Bonsoir Martal.
Bonsoir Galaxies.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Bonsoir Zergy.
Salut.
Et bonsoir à notre invité exceptionnel, un invité de prestige. Un invité un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de voir, oui. Parce que c'est vrai qu'on est plutôt une émission de clodo, hein, d'ordinaire.
C'est moi les Galaxies.
Et Drosgar.
C'est intelligent, bah bravo. Voilà, nous recevons Monsieur Jean Z, qui est l'auteur du livre Art et jeux vidéo aux éditions Palette.
Salut tout le monde, c'est
voilà.
Bien, hein.
Et qui va être notre invité d'honneur, et nous allons parler de son livre dans la deuxième partie de l'émission. Mais nous allons commencer tout de suite par notre traditionnel tour de table de l'actualité. Et je vais laisser la parole à Mecton, qui a malheureusement un petit message un peu triste à nous transmettre. Ne pleure pas, Mecton, la dernière
non,
fois c'était très gênant.
Je vais péter l'ambiance directe. Bon, donc on a appris le décès de Lord Casque Noir il y a peu. Donc pour ceux qui le connaissaient pas, c'était le cofondateur de Canard PC. Donc un magazine qu'on aime beaucoup par ici. Et personnellement, donc ça m'a rappelé que j'aimais beaucoup son travail à l'époque de Joystick quand j'étais ado. Donc voilà. Bon, évidemment condoléances à sa famille, ses collègues et ses amis et Monsieur Casque. Celle-ci, elle est pour toi.
c'est la bière de
le meilleur hommage.
C'est fait. Ouais. Je vais juste embrayer parce que je crois qu'on a on a très peu d'actu en fait en ce moment. Enfin sauf si
même pas du tout en fait ça.
Même oui voilà c'est un peu ça.
Bah, j'ai vu des grosses rumeurs sur un Pokémon sur Switch avec une possibilité d'un remake des premières générations et un lancer de Pokéball comme Pokémon Go destiné comme ça adapté. Mais vous savez ce que c'est des grosses rumeurs. Jusqu'à l'E3 il va y en avoir plein et si on devait toutes les lister on ferait un dojo bar de 3 heures.
Ouais, parce
mais
que
on fera peut-être ça la semaine prochaine.
C'est parfait. Voilà.
Parce que dans les rumeurs marrantes on a quand même un Star Fox Racing. Hein.
Oui non mais on peut essayer d'être un peu voilà c'est un peu la réaction normale des gens normaux c'est oh putain voilà. Non, on arrête s'il vous plaît.
Moi j'ai un petit truc qui est tombé en début de semaine c'était la date du tournoi bêta test de Mario Tennis Aces sur Switch qui aura lieu début juin du 1er au 3 je crois.
Oh parfait.
Et on pourra gagner une tenue spéciale pour Mario qui est en fait sa tenue normale.
Merci Nintendo de nous faire toujours saliver avec des fonds d'écran et des tenues spéciales, et ça nous fait très plaisir. Je vais donc terminer ce très court tour de table de l'actualité. La Neo Geo Mini a été annoncée, donc c'est vrai qu'après...
Est-ce qu'elle coûtera 400 euros ?
Elle est annoncée, enfin il n'y a pas encore de prix, mais vu qu'il y a un écran intégré dedans, un mini joystick, c'est une vraie mini borne d'arcade, en fait, c'est une espèce de mini tabletop avec une sortie HDMI et une prise USB pour pouvoir brancher une deuxième manette, donc je pense qu'on va être pas loin de 300 balles.
Est-ce qu'elle a 32 mégabits la Neo Geo Mini ?
Je ne sais pas, je pense que c'est de l'émulation, donc on n'a pas encore le prix. De la Neo Geo Mini, en tout cas je l'ai pas vu, j'ai regardé ça hier ou avant-hier, c'était pas encore annoncé en termes de prix. Donc il y a un petit écran LCD qui fait quoi, je crois que c'est 6 ou 7 pouces, un truc comme ça, donc c'est pas un gros truc. Il y a un vrai panel pour un seul joueur, donc il y a un vrai panel de bande d'arcade Neo Geo, et en plus il y a une manette USB qui est la manette de la Neo Geo CD, qui est une petite manette avec des petits cliquets en fait pour le joystick. Et donc il y a un vrai gros stick, il y a des vrais gros boutons, il y a un bouton pour mettre des pièces, enfin ça a l'air quand même d'être assez cool. Il y aura 40 jeux disponibles, c'est tous des jeux de combat. Ah.
C'est la Neo Geo, hein, globalement, à part Metal Slug.
C'est un peu ça. Non, il y aura genre 3 ou 4 Metal Slug. Il y a des.
Qu'on a tous déjà fait.
King of Fighters 95, 97, 99. Ils se sont dit, c'est pas la peine de faire 96, 98. Non, c'est bon.
Ouais, ils ont pas mis l'épisode 98, du coup, l'épisode best-of.
Ouais, non, mais bon. C'est... Alors, la liste va peut-être changer entre deux, mais pour l'instant, il y a a priori que des jeux de SNK. Ils ont pas tous été annoncés, donc il y a peut-être moyen qu'il y ait une petite surprise au milieu quand même. Mais voilà, pour l'instant, on en est à peu près là. D'un point de vue, pour le reste, moi je me demandais à quand la Jaguar Mini, en fait.
On espère jamais.
On espère jamais, mais si ça se trouve, il va y avoir la Jaguar Mini. Vous ne le savez pas. En fait, vous ne le savez pas, mais je vous l'annonce, la Jaguar Mini, Atari va la lancer. C'est un très grand projet, plusieurs millions de dollars hein, pour lancer.
Encore
effectivement. Mais oui, mais c'est la console qui va tourner sur un Raspberry Pi dans une boîte qui ressemblera vaguement à une Jaguar. Voilà.
Et je l'attends avec impatience.
Mais alors, en fait, c'est ça la console qu'Atari avait teasée il y a un an à peu près, non ?
Ouais, et qui va se planter et qui finance par Indiegogo ou un truc comme
ouais,
ça.
Voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est bon. Bref, ça va encore bien tourner. Mais là, la Neo Geo Mini, il y a peut-être moyen que ça se fasse parce que bon, les jeux sont quand même déjà un petit peu plus quali. Et le matos a quand même l'air d'être pas trop crade, et c'est vrai qu'avec la mode des bar top et des bornes d'arcade qui revient un tout petit peu, il y a quelques barcades qui ouvrent régulièrement aux États-Unis, au Canada et un petit peu en Europe, bah, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ça peut avoir son public, maintenant il faut reste à voir le prix, et si le prix est exorbitant, évidemment ça va compliquer les choses.
Je vois pas trop la pertinence honnêtement d'avoir un écran intégré parce que c'est...
Est-ce que ça fait une vraie expérience arcade à la maison ?
Oui, mais c'est, je veux dire, on peut le brancher sur une télé, c'est ça ?
Oui, oui, il y a une sortie HDMI en plus.
Ah oui, parce que sinon...
La Switch.
C'est un dock, en fait.
Non, mais sinon, parce que jouer sur un écran de 7 pouces, même avec des petits jeux, enfin des petits jeux, et des jeux arcade, c'est un peu petit, quoi. Enfin, c'est pas terrible.
Ça va être compliqué, mais en même temps, c'est un peu le but du truc, je pense. Mais bon. Enfin, on verra bien ce que ça donne, de toute façon, c'est toujours pareil, si c'est à 400 balles, personne n'achètera, puis ce sera réglé. Donc, nous allons terminer ce tour de l'actualité et passer à notre gros sujet, qui est donc le livre Art et Jeux vidéo de Monsieur Jean Z, notre invité. Merci encore d'être là et de faire cette émission voilà, qui fait un petit peu avec les moyens du bord, hein, faut quand même être honnête. Mais nous allons nous écouter d'abord un petit morceau qui va vous faire saigner des oreilles.
Enfoiré.
Ah, mais quelle ordure.
Et oui, c'est moi le DJ aucune race.
DJ Albert.
Nous allons écouter l'OST de Night Trap, le thème
principal.
Oh, il a vraiment fait.
Mais non, et si elle est aussi bonne que la jaquette, franchement.
Bah, c'est à peu près ça. Mais
est-ce que Night Trap est une œuvre d'art du jeu vidéo ?
On y répondra tout à l'heure.
C'est de l'art contemporain.
On comprend pas. Voilà, on va donc s'écouter le thème principal de Night Trap. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 2 minutes 30. A tout de suite. Tour.
Tour.
Et nous allons donc parler du livre Art et Jeux vidéo. Comme vous savez, je suis un adepte du journalisme total, donc je n'ai pas lu le livre.
je commence bien.
Comme à la télé.
C'est tout pareil, tout pareil.
Mais je suis la meilleure fois que j'irai à Paris. Ce sera voilà. Plus simple.
Pujada, si tu nous écoutes, big up.
Ouais, cool. Non, les mecs, ils disent en face de l'auteur, tu me feras un scan.
Bien joué.
C'est énorme, je lag.
Non mais c'est pas grave. Mais par contre, Monsieur Mecton et Monsieur Drosgar ont lu le livre en long, en large, en travers et extrêmement attentivement.
Yes.
Et ce sont donc eux qui vont poser les questions. Je laisse la parole à Mecton, qui va commencer par je ne sais pas quoi parce que cette émission est très bien préparée.
J'en sais rien, oui. Qu'est-ce que je peux dire ? Le bouquin est beau, franchement.
Merci. Non mais c'est vrai que c'est un plus, hein, parce que ça attire le regard.
Non, alors déconne pas. Voilà, pardon, je te coupe, mais je l'avais posé sur ma table.
Ouais, je pensais à ça.
Voilà, je l'avais posé sur ma table et ma copine machinalement s'est approchée du bouquin, elle a feuilleté et elle s'est attardée sur quelques pages en particulier qui ont suscité quelques discussions. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Et j'ai eu la même chose avec mon père, qui lui n'est pas du tout, mais non, vraiment pas du tout joueur. Et l'angle d'approche, donc les différentes présentations des différents courants artistiques, on en reparlera. Ça l'a accroché. Donc, comme quoi, alors je sais pas quelle était la motivation de base, mais ça a marché.
Et surtout sur des gens qui jouaient ou pas du tout là. Pour le coup,
alors ma copine, ouais, joueuse, et mon père, pas du tout, mais vraiment pas du tout.
Oui, non, mais l'idée c'était de confronter un monde, le monde des arts, à celui du jeu vidéo qu'on dit absolument étranger ou un peu étranger à cet univers-là. Et voilà, et du coup, s'apercevoir que finalement, encore une fois, je ne sais pas si le jeu vidéo c'est de l'art, mais finalement, il y a quand même une filiation, il y a un héritage, et que le jeu vidéo prend à son compte absolument partout. Enfin, voilà. Du coup, l'idée c'était de confronter un peu Minecraft au cubiste, par exemple. Voilà, je trouvais ça marrant dans l'idée de nous confronter à deux choses qu'on on se dit, mon Dieu, ça n'a absolument aucun rapport, et se rendre compte que finalement, il y a des rapports économiques, il y a des rapports esthétiques, il y a des rapports... c'est pas aussi simple que de dire que le jeu vidéo, c'est pas de l'art. Ou d'ailleurs, pas aussi simple que de dire que le jeu vidéo, c'est de l'art.
Ouais. Donc tu commences par un premier parallèle. Alors, je me permets juste de dire, le bouquin est plus ou moins en deux parties. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Donc la première partie, des parallèles entre des courants artistiques. Je sais pas si j'ai le bon vocabulaire, mais donc des courants artistiques au fil de l'histoire, et donc des parallèles avec des jeux existants. Et donc la deuxième partie, plus sur un survol de l'histoire du jeu, du jeu vidéo en général, donc vers une conclusion dont on reparlera un peu plus loin. Et alors personnellement, j'ai halluciné de pas m'en être rendu compte plus tôt sur le parallèle entre la naissance et les motivations qui ont amené au courant de l'impressionnisme et du pointillisme et le pixel art.
Oui, c'est drôle ça.
Ouais, ça c'était vraiment vraiment bien vu.
Pour expliquer l'impressionnisme, c'est aussi une création économique. Ça s'appelle le marché de l'art qu'on connaît aujourd'hui, le marché de l'art contemporain, etc. C'est-à-dire des gens qui louent des salles, en gros, qui exposent. Et puis s'il y a des vendeurs qui passent bien gentils, on achète. Or, avant les impressionnistes, c'était beaucoup, on était plutôt affilié à un seigneur, à un gros bourgeois, etc. Et puis on faisait des œuvres de commande.
Oui, c'était un mécène qui éventuellement faisait des commandes et qui permettait aux mecs de vivre, quoi, en gros.
Exactement. Alors bon, l'histoire est grossière parce qu'il se trouve qu'à Venise, avec le Tintoret, il avait un peu inventé ça, mais pas aussi fort que les impressionnistes. Vraiment, les impressionnistes ont créé ça et du coup, ça a créé le concept de loser, enfin d'artiste loser, c'est-à-dire qui n'arrive pas à vendre ses toiles, Van Gogh par exemple, et qui meurt dans la quasi-déchéance. Et pourtant, c'est un génie, voilà. Le génie méconnu, la figure du génie méconnu va naître réellement là. Et il se trouve qu'en 2008, quand est né le marché du jeu vidéo indépendant, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les indépendants ont dit, on va essayer de créer un marché du jeu indépendant, alternatif, pour pouvoir exploiter nos productions. C'est marrant de voir les deux formes de liberté économique, en tout cas. On va essayer de se faire de l'argent en dehors des circuits classiques de listes. Mais pour le coup, c'est en cherchant, en fait, que je me suis rendu compte du parallèle et que j'ai trouvé assez génial, quoi.
Mais du coup, le parallèle, il est seulement économique ou il y a un parallèle artistique aussi entre dire le pixel art, finalement, c'est placer des points sur une toile et que le pointillisme, c'est pas tout à fait ça, mais enfin bon. Tu vas jusque-là ou pas du tout? C'est vraiment juste le point de vue économique de dire c'est des mecs qui reprennent une certaine indépendance économique par rapport à leur mécène.
Esthétiquement, bizarrement, parfois, on peut tomber sur un peu d'impressionnisme ou du pointillisme. Bon, après, esthétiquement, c'est un peu une caricature, parce que le jeu vidéo indépendant, vous le savez, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus foisonnant, etc. Mais en tout cas, il y a cette envie de liberté, tout coup, et puis de créer aussi des losers dans le jeu vidéo indépendant. Je trouve le parallèle assez fort. Je trouve qu'il s'est passé quelque chose qu'on peut mettre en comparaison, en tout cas. Voilà. Sans avoir honte, sans dire, oh mon Dieu, les impressionnistes, mais il y avait des crèves la dalle, il y avait des génies, il y avait des gens connus, il y avait des usurpateurs. Bref, tout un monde que l'on connaît aussi dans le jeu vidéo. Donc, c'est un parallèle qui marche. Encore une fois, la première partie, c'est vraiment se dire, est-ce qu'on peut comparer le jeu vidéo avec d'autres formes d'art, d'autres courants? Et la deuxième, c'est savoir de quel art est le jeu vidéo. C'est quoi l'art du jeu vidéo, en fait? Parce que c'est ça la question. L'idée marrante de comparer avec les autres arts, c'est juste pour se dire, mais est-ce qu'il y a finalement un art du jeu vidéo? Voilà. C'est ce que la deuxième partie explore.
Alors, justement, je trouvais ça intéressant, parce que moi, un peu comme Mecton, justement, j'étais allé acheter ton livre à la Fnac. Comment ça, vous voyez, un peu trop poli.
Ouais, il faut pas,
ça va le gêner, ça va le gêner.
C'est trop poli, le mec qui jette des fleurs.
Vous m'avez promis des questions vaches. Donc...
non, mais ça ne saurait tarder, il y a Galaxy qui attend. Déjà, en fait, à la base, je cherchais le livre au rayon jeux vidéo. Je savais qu'il était dans la Fnac parce qu'il a été montré sur le site, mais j'ai trouvé au rayon jeunesse. Donc je trouvais ça un peu étrange. Et du coup, j'ai mis peut-être une heure à le trouver avant d'oser demander à quelqu'un. Et lorsqu'on l'a enfin trouvé avec ma copine, elle a dit « Waouh, mais ça a l'air vachement intéressant, ouais, est-ce que tu pourras me le prêter ?» Alors qu'elle joue Très peu. Elle fait quelques Mario Kart de temps en temps. Non, même pas. C'est juste Mario Kart quand je mets la misère. Mais du coup, c'est vrai que ce parallèle, oui, c'est vrai que c'est moche. Ce parallèle constant, en fait, dans la première partie avec les différents courants artistiques, peut avoir tendance justement à légitimer le jeu vidéo. Pour, en tout cas, les personnes qui ne sont pas joueuses de base. Moi, je ne le vois pas comme ça. D'un côté, et c'est ce qui peut me faire un peu peur, et c'est aussi ce que j'ai reproché à l'exposition L'art dans le jeu vidéo. Je ne sais pas si tu avais pu y aller.
C'était
au musée des arts ludiques dans le 13e.
Oui, c'était le jeu vidéo Made in France.
Ouais, c'est ça.
Très accessible Made in France, oui, tout à fait. Oui, j'ai vu.
Et ben, alors moi personnellement, j'ai pu y aller.
Beaucoup d'artwork, de sculptures.
C'était sympa, mais c'était très orienté Made in France.
C'était très cher.
Mais non, mais c'est vrai que.
Non, mais c'était vachement sympa à parcourir parce que même pour les gens qui effectivement n'étaient pas du tout versés dans le jeu vidéo, il y avait de magnifiques lithographies, il y avait de magnifiques concept art. Ce qui est dommage, c'est que je trouve que ça allait pas plus loin. C'est-à-dire, le vidéo, c'est quand même un truc animé avec de la musique. Enfin voilà, il y avait beaucoup de trucs très jolis, hein, mais qui n'étaient pas
statique.
De vraies images de jeu. Quoi.
Voilà, c'est un peu mon point justement, et c'est ce que je pourrais un peu personnellement reprocher au livre, de manière légère, hein, bien sûr.
Mais allez, ça clash.
Final, on parle en majorité des arts qu'on a l'habitude de connaître, donc art graphique, etc. Pour essayer en fait de les rapprocher au jeu vidéo, mais on perd un peu justement la substance même du jeu vidéo avec le game design, avec l'interactivité. Alors avec un livre forcément ça va être compliqué.
Mes questions, mais... je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir.
Oui, bah, avec l'exposition avant. Hein.
Mais je l'ai fait l'expo.
L'art dans le jeu vidéo ?
Bah oui, l'art ludique. C'est pour ça que j'ai dit. C'était
t'avais 12 ans à l'époque.
Bah oui, et mais je t'assure, je l'ai fait. Et c'était justement, et c'était ma question d'après, mais je la poserai quand même parce que c'est un peu différent, mais voilà.
D'accord, merci. Mais justement, moi, à l'époque, quand j'allais voir cette expo, je trouvais que c'est ce qui manquait, justement. C'était intéressant pour les non-joueurs de voir qu'en fait, les jeux vidéo, c'était pas seulement quelque chose d'abrutissant, parce que c'est encore une histoire qu'on entend trop souvent. Donc, à mes yeux, ça faisait une porte d'entrée, mais il y avait une grosse critique de cette expo, et que j'ai peur que l'on puisse retrouver avec ce livre, justement, c'était qu'on se limitait un peu à ça. Alors, sur la fin du livre, justement, comme on a pu parler avec Mecton avant l'émission, il y a quand même une ouverture là-dessus. Mais c'est vrai qu'on se base quand même une bonne partie sur les arts qui préexistent avant de parler justement de l'art du jeu vidéo lui-même.
Ouais, c'est...
Ouais, mais je trouvais ça plus marrant. C'est vraiment pour le coup... Je trouvais ça marrant de déplacer le curseur d'un coup et de se dire... de jeter le jeu vidéo un peu au milieu de tous ces arts bourgeois reconnus légitimés par la culture, bon, etc. De jeter une espèce de boule puante au milieu de tout ça et de se dire qu'est-ce qui se passe, parce que moi j'en savais rien, si tu veux. La question, c'est que moi, je suis parti du bouquin, la deuxième partie je la connaissais parce que j'avais déjà mis les doigts dedans, donc ouais. l'art du gameplay, pouvoir l'expliquer, etc., ça c'était aisé, mais mais mettre le jeu vidéo au milieu d'art, alors que moi je suis pas persuadé que ce soit de l'art, mais je me dis, tiens, qu'est-ce que ça fait, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai trouvé des réponses. Alors après, est-ce que ça légitime? Oui, forcément, parce que poser la question à Régie, enfin, c'est pas une question d'ailleurs, poser l'affirmation à Régie Vidéo, bah, c'est forcément déjà indiqué qu'il y a quelque chose, mais je trouve ça quand même rigolo de même déstabiliser les joueurs. Les joueuses se disent qu'est-ce que vient faire le pointillisme, soir d'une sorcerie, et puis une peinture de pointillisme d'ailleurs qui se ressemble fortement. Enfin, même moi ça m'a déstabilisé. Je trouvais ça intéressant de déstabiliser d'entrée les joueuses et joueurs, et les autres, par contre, ceux qui n'y connaissaient rien, finalement ceux qui n'y connaissaient rien, eux ils sont plutôt tentés d'y aller, quoi. Ils disent, ah ouais,
oui, c'est vrai.
Ouais.
En fait, c'est une espèce de. C'est un peu du clickbait, mais version libre.
Ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Version un peu intello, si tu veux. Ouais,
si tu veux, je reviens rapidement.
Faut qu'on brevette le truc, attends.
Je reviens rapidement à l'anecdote avec mon père. Donc, mon père ne connaît pas du tout la partie jeu et côté art. Bon, il a quelques bases, comme tout un chacun. Et du coup, donc, ouais, ça lui faisait une porte d'entrée vers le jeu. Et moi, ça a été l'inverse. Donc, le jeu, je connais bien depuis des années. Par contre, la partie art, je connais moins. Et du coup, j'ai envie de m'y intéresser, quoi. Alors, forcément, je sais pas si je prends le bouquin dans le bon sens, mais. Mais il y a certains...
Après, je pense que ça se prend dans le sens... Alors, je réponds à la question, pourquoi vous le trouvez en... Pourquoi vous l'avez trouvé en jeunesse ? C'est logique, puisque le Palette, c'est une collection qui s'appelle Art et quelque chose, en fait. Il y a eu Art et BD, Art et publicité, et c'est à partir des collégiens, voilà. C'est pas à destination, mais ils essaient de parler aux plus jeunes.
Parce que justement, je m'en suis aperçu un peu plus tard en allant sur le site d'Édition Palette, mais au début, je pensais vraiment le trouver au rayon jeux vidéo comme la majorité de ce genre d'ouvrage. Alors qu'en fait, non. Et d'un côté, je trouve ça plus intéressant parce que ça permet à des jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ou qui jouent de manière un peu moins intellectuelle. Ça fait hyper pompeux.
Non informé, quoi.
Ouais. Oui, c'est ça. Genre, juste aux jeux vidéo pour s'amuser, mais sans voir derrière tout le travail qu'il pourrait y avoir, ça peut permettre justement de les ouvrir à ce genre de choses. Et j'ai trouvé que c'était une bonne chose de placer ailleurs que dans ces rayons un peu malfamés.
Après, moi, j'ai pas voulu faire... vous parliez de l'expo l'art du jeu vidéo, enfin Made in France. Ouais. Moi, j'ai pas voulu faire l'avant jeu vidéo, c'est-à-dire la préparation. Ce qu'on dit souvent quand on dit que l'art c'est du jeu vidéo, le jeu vidéo c'est de l'art, pardon, et on dit, ben non, mais il y a des artistes. Donc, on montre le travail des artistes, les concepts art, enfin, tout le travail avant, en fait. On amont le making-of, qui est vraiment génial parce que il y a des mecs qui sont, enfin, il y a des mecs qui sont réellement déments. Enfin, bon, bref, il y a un boulot qui est incroyable. Mais parfois, ça se voit pas dans le jeu. Parce que c'est des idées de départ et on voit plus rien à la fin. On se dit, oui, mais alors, je vois pas tellement le rapport avec la choucroute. Or, moi, j'ai pris les produits finaux, entre guillemets, pour faire exprès, pour me dire, même si les gens y ont pas joué, ils connaissent Lara Croft, ils connaissent ces jeux-là. Et j'ai pas voulu partir du making of comme l'a fait l'exposition, qui était très intéressante. Hein,
c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans ton exposition. Évidemment, je suis en train de mémoire sur le nom.
Ah,
SOCD. Et qui est très sympa.
Qui était très sympa. Rest in peace.
Non, mais c'est un peu le. C'est un peu, et en même temps, la qualité que je trouve à ton discours, et en même temps, je trouve que c'est un peu un défaut, et justement, c'était ma question.
Ça fait plaisir
de me gâcher. dans le sens où il y a vraiment une volonté, genre, d'ouvrir le jeu vidéo, en fait, de le légitimer en tant que. Pratique, en fait,
qu'autre chose qu'un truc pop,
de le sortir, de le sortir en fait du populaire. Je crois que t'avais parlé des romans de Stephen King, disant que à la base c'était des romans de gare et que c'est totalement accepté de lire du Stephen King, il y a aucun problème, et c'était un peu ta démarche avec le jeu vidéo, je crois que c'est ça, si j'ai bien compris.
Oui, en gros, c'est pas mal. Non, enfin, surtout que Stephen King, moi je le lisais, si tu veux, j'étais un peu le paria de la pour l'école. Et aujourd'hui, tu le trouves dans le New York Times, tu le trouves chroniqué dans le New York Times, c'est dans le monde. C'est fascinant.
Il est légitimé avec le temps, quoi.
Oui.
Il a trouvé son public.
Parce que moi, j'essaie pas de le légitimer, parce que moi, à l'époque, il était déjà légitime. C'est ça. C'est là où je veux m'expliquer. Pour moi, le jeu vidéo est légitime. Donc, il a ce qu'il a à faire. Enfin, il fait ce qu'il a à faire. Mais j'ai pas besoin de me justifier, voilà.
Oui.
Il faut être bien précis. Je ne cherche pas de justification. Je pense qu'il n'a pas à se justifier. Moi, je ne le justifie pas. J'essaie de le montrer comme moi je le vois. Alors, effectivement, ça peut. Mais après, le jeu vidéo a mille facettes, donc on peut toujours me reprocher pourquoi choisir le beau, pourquoi choisir un peu l'art contemporain, pourquoi choisir tout ça. Ce que je comprends, hein, c'est pas. J'entends.
Je rebondis juste là-dessus parce que je trouve ça intéressant, c'est de se poser la question de à quel moment ça devient légitime. C'est-à-dire que le fait que l'art soit quelque chose qui démarre dans la rue et qui finalement finit par grimper. Je veux dire, la peinture, c'est un peu compliqué. Mais il y a d'autres formes d'art qui démarrent dans la rue. Je veux dire, la musique, ça démarre dans la rue. Le jazz, ça démarre dans la rue. C'est après que ça devient légitime. Ouais. Le hip-hop, ça démarre dans la rue. C'est après que ça devient légitime parce qu'il y a de plus en plus de gens qui l'écoutent. Pour toi, à partir de quel moment le jeu vidéo a commencé à être légitime ? T'as pas le droit de répondre dès que j'ai commencé à jouer.
Sors de la sphère pop, commence à déborder un petit peu de la sphère geek.
Bah après c'est une question personnelle, c'est-à-dire c'est à quel moment, à quel jeu.
Éventuellement. Ouais.
Je pense que c'est Half-Life. Half-Life.
Belle réponse.
Half-Life, c'était pour moi, hein, c'était waouh. C'était vraiment waouh. Enfin, au moment où on se rend compte, on est trahi.
On peut faire ça. Ouais.
La trahison, c'est-à-dire le sentiment d'être d'être rejeté alors qu'on croit avoir des amis.
Et d'un les coup, militaires,
tout,
c'est ça.
Tout, ouais, exactement. Quand ouais. tu te retournes, que là, là, il y a réellement quelque chose qui, il y a un vrai retournement de situation, mais qui est autre chose qu'un cliffhanger de série. C'est vraiment, parce qu'on le joue et parce qu'on le vit. Et à ce moment-là, je crois que me suis rendu compte de la puissance de ce jeu vidéo-là. Alors qu'il m'a toujours accompagné, hein. Enfin, voilà, moi, je jouais, mais pas forcément, entre guillemets, c'est pas pris au sérieux, mais c'était un truc parmi d'autres, à côté de la littérature, du cinoche ou des séries balbutiantes, quoi.
Alors, c'est fou parce que quand tu me dis que t'essayes pas tellement les. Enfin, de. Que ton. Comment dire. Que le but de ta démarche, c'est pas tellement
c'est pas de. Justifier, de les justifier, voilà.
Ah oui, oui.
C'est légitimé vrai. Peut-être, alors... mais justifié,
ah, oui, d'accord.
Pas,
voilà, okay, okay. Voilà, c'est ça d'accord, la différence. Parce que j'ai mal compris.
Les nuances, là. Que je ne cherche pas à dire. Non, mais regardez vraiment. C'est vraiment de l'art, je m'en fiche, quoi. Enfin. Mais par contre, moi, j'y vois des choses que j'aimerais partager. Voilà. C'est plus ça dans ma démarche.
Ouais, parce que du coup, en fait, parce que du coup, ça fout un peu ma question. Allô ? C'est génial.
J'aurais dû dire oui, je légitime le jeu. Oui,
mais je suis Jason et je légitime le jeu vidéo.
C'est très bien parce que tant mieux en soi, parce que c'est vrai que du coup. Moi, je l'avais compris. Il me mord de rire. Je l'avais compris comme en fait, t'essayes de comment dire, t'essayes de d'amener le jeu vidéo en fait comme quelque chose de totalement accepté et je pensais en fait que le but de ton bouquin, c'est de montrer justement que il y a de l'art dans le jeu vidéo, qui était un peu la démarche d'ailleurs de l'expo, l'art dans le jeu vidéo aux arts ludiques. Mm-hmm. Donc c'est un art. Et en fait, j'avais compris que ça.
Et je... Oui, c'est un art, mais quel art ? De quel art on parle ? C'est ça la vraie question. Je suis pas sûr d'avoir trouvé la réponse. Il me semble qu'il y a un art du gameplay. C'est ce que mm-hmm. j'essaie de montrer. Mais il fallait pour moi le confronter d'abord aux autres. Pour pouvoir dire c'est quoi sa spécificité à lui finalement, une fois qu'on a traversé toute cette forêt de peinture, de sculpture, d'architecture, bon, etc.
Courant, ouais.
Voilà, et qu'est-ce qui nous reste à nous joueurs en face de ce vidéo là et finalement
c'était exactement la question, c'est genre c'est bien, répond voilà. Exactement quoi, je suis très content,
il est doué hein,
j'avoue.
Voilà, tu alors t'es genre après c'est ma vie de tir dessus.
Non mais c'est vrai parce que du coup moi en fait mon problème, et je pensais que du coup dans ton discours il y avait ça, mais finalement enfin c'est juste moi qui ai mal compris, et peut-être tant mieux ou tant pis, mais dans le sens
c'est
où...
peut-être mal écrit aussi hein,
pas... le oui, c'est aux arts, on sait tous, on a relu si... c'est pas
oui, terrible, il y a un S,
non mais c'est vrai que aux arts ludiques je l'ai senti comme il y a de l'art dans le jeu vidéo, donc c'est un jeu vidéo parce que c'est un art qu'en groupe plein. Et je trouve oui. En fait la démarche un peu biaisée, dans le sens où le cinéma, sauf erreur de ma part, on l'a pas légitimé en disant il y a tout, il y a des décors, il y a du maquillage, il y a je sais pas
de la chorégraphie, des lumières, de la danse, de l'image, ouais. Du son, de la musique.
On l'a légitimé.
Ça a été très très lent la légitimation.
Ah oui, mais d'ailleurs tu l'as.
C'est les premières pages. Ouais.
C'est
ouais,
un
ouais.
des parallèles que tu as dans le livre aussi, d'accord. Autant pour. Mais dans, c'est un des parallèles que tu fais. Je crois que sur le monde, et tu dis que, enfin, en tout cas, le cinéma, il s'est légitimé justement parce que on a prouvé que sa spécificité était vecteur aussi de messages et d'émotions. J'ai compris, je sais pas si c'est totalement vrai, je l'ai compris comme ça, c'est-à-dire que c'est parce que le montage, le cadrage était un art à part entière, entre guillemets, que le cinéma était un art et pas parce que c'était un art total, comme on le disait avant.
Oui, c'est ça exactement, c'est pour ça que ça arrivait les petits nouveaux, c'est toujours l'art total. De toute façon,
C'est pour ça que je trouve que la démarche, et je pensais que c'était ta démarche, mais bon, je me suis trompé.
J'ai cherché, alors après j'ai aussi donné des réponses, totalement critiquables, donc ouvert à la critique, c'est-à-dire que j'ai cherché quel était l'art du jeu vidéo, s'il y en avait un, voilà. Et il me semble qu'il y en a même, il y en a un, et qu'il est indéniable pour moi. Et du coup, et attention, qui n'exclut pas Mario d'un Braid,
oui.
Ou d'un
oui.
Witness. C'est pas parce que c'est bobo que c'est de l'art. Ça n'exclut pas. C'est ce que j'ai fait gaffe justement à ce que cette notion d'art, en tout cas en la cherchant, à ce qu'elle soit pas spécifique aux jeux vidéo indépendants. On en a parlé au début, mais non, pourquoi pas un jeu Nintendo, il y a de l'art.
Ouais, c'est vraiment général en fait.
Oui, et puis c'est des pistes quoi, parce que c'est compliqué. Alors tu disais pourquoi le jeu vidéo est-il un art? Moi, il y a aussi une question qui est importante dans le cinéma. Pourquoi le cinéma c'est un art? Parce qu'il est aussi vecteur. Ah, il faut pas comprendre de moralité, de bonne vie, c'est-à-dire de on va y piocher de quoi faire une bonne vie. On va chercher d'autres exemples de gens qui ont vécu des choses, par exemple en littérature, et dire, ah bah tiens, lui, il a fait une grosse connerie, ouais, c'est un peu moche. Derrière le côté divertissement de la littérature, là, c'est un peu le côté moral, ou bonne morale, ou recherche de la morale dans sa vie. Je pense que le jeu vidéo, bah, il est capable de faire ça. Voilà, il est aussi capable que le cinéma, que la littérature, de se dire, ah ouais, tiens, lui, il a fait ça dans le jeu, enfin, j'ai été obligé de faire ça comme jeu, dans le jeu. Ouais, bah, en fait, ça me plaît pas. Je l'ai fait, mais ça me plaît pas. Voilà. Et peut-être que dans ta vie, bah, le jeu vidéo peut aider aussi à ça, ce qui est quand même assez incroyable quand on part de Pong, quand même. Voilà, il faut quand même se dire aussi où on part, quoi.
C'est pour ça que je trouve même ta démarche en général, parce que autant, bon, ça j'avais compris, mais je pense que t'as, du coup, avec ce que t'as dit au début de l'émission, le reste de ta, comment dire, de ta pensée, c'est vrai qu'elle est vraiment super bienveillante, et c'est quelque chose qui est vraiment unique dans le sens où même ton exposition, Tu l'as dit, penser pour qu'elle soit belle à regarder, c'est ça, et que on n'est pas genre il y ait pas ce c'est pas de la honte, c'est un peu fort la honte, mais cette appréhension à dire aux autres, je suis allé voir ce week-end une expo sur le jeu vidéo, et c'est vrai que c'est ce qui transparaît totalement pendant l'exposition qu'on a faite avec Drosgar. C'est vraiment, il y a cette impression de regarder le jeu, c'est aussi bien déjà du jeu que de la vidéo. C'est pour ça qu'il y avait des let's play, des let's play sur le sur le côté, c'est ça.
Exactement.
Et c'est aussi bien de l'art classique. C'était pour ça qu'il y a la modélisation du héros de Watch Dogs 2 sur le côté. Si je me trompe pas dans l'interprétation.
Oui, exactement. Mais là, on était plus dans le côté préparatoire. Enfin, même si il y avait quatre statues de Watch Dogs 2, mais pris à des époques différentes, quoi.
Oui. Avec
première PlayStation, dernière PlayStation. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc la première. Ça, c'était assez incroyable de voir le travail du temps, en fait. Ce que je voulais montrer aussi, c'était le. Moi, je joue de Pong, donc je commence un peu à être épais. Donc, mais montrer le travail du temps dans le jeu vidéo, et qu'il y avait déjà. Que ce jeu vidéo, bah, il n'était pas si jeune finalement.
Mais d'ailleurs, c'est ce message qui se retrouve au cours de l'expo, parce qu'on va aussi bien de Pong à la réalité virtuelle. Et ce que j'ai trouvé fou et que j'ai appris, et j'aurais bien voulu dire quand on a fait notre émission donc sur l'exposition, c'est que Pong et oula, j'en trouvais mort des autres jeux. Mais en tout cas, les jeux qui étaient joués à l'époque sur oscilloscope ont été totalement recréés, c'est ça?
Ah oui, totalement. Ça a été recréé même par MO5.com, donc l'association de préservation, qui a recréé tous les jeux possibles, Space War notamment, hein, le grand Space War qui est quand même le grand-père, grand souvenir de cours de physique. Oui, puis c'est le vrai, je pense, vrai premier jeu, quoi. Voilà, il y a Tennis for Two avant, mais il y a un Morpon avant, mais c'est le vrai, vrai premier jeu pour moi, c'est quand même Space War. Bon, et MO5.com a fait appel à pas un Kickstarter, mais à la bonne volonté de ses adhérents et même du monde entier pour nous aider à recréer les jeux. Parce que moi, je voulais qu'ils soient jouables. Même si c'était dur à voir, jouable. Je voulais qu'ils soient jouables pour montrer un petit peu comment c'était né, quoi. À l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient, enfin, à quoi ils s'amusaient aujourd'hui. C'est évidemment, on y joue, on a envie de tailler les veines au bout de deux secondes. Parce que c'est ou atrocement dur, ou complètement foireux, ou machin. Bien que Space War ne le soit pas, hein. Pour le coup, il tient là.
Tennis for Two un peu plus, hein.
Les
angles, ils sont. Faut vraiment, genre, essayer une ou deux minutes avant de trouver l'angle pour, oui, sur lequel se repérer. Mais...
tu sais, c'est Oregon Trail, le fameux jeu éducatif, je mets des gros guillemets, dans lequel tu finis par crever de dysenterie au bout de deux jours, normalement. Si tu joues normalement.
Mais c'est cité dans le bouquin, tu vois.
C'est pour ça que.
Cité dans le bouquin. Ouais. Voilà, là, on est vraiment dans de l'art.
Mais c'est pour ça que je trouve que même, enfin, il y a une bienveillance générale en fait de vouloir montrer toutes les facettes et à des non-initiés, autant à des non-initiés qu'à des initiés, et ça se retrouve aussi du coup dans le bouquin, à part je l'ai pas lu, mais Mecton a fait un joli résumé, et c'est vrai que c'est
ce qui a l'air
de transparaître. Et je trouve que c'est une démarche qui est assez... Du coup, ça devait être la question qui pique, mais finalement, c'est complètement complaisant.
Attention, c'est la question qui pique.
Ouais, c'est un peu complaisant, j'ai un peu déçu.
Mais non,
j'ai
demandé ce qu'on a pu...
J'ai compris à l'envers...
J'attendais à être du Bloodborne, là, bam.
C'était un peu le Dark Souls des interviews. Mais vraiment,
beaucoup cette phrase.
Ça fait vraiment plaisir à voir ce genre de démarche assez bienveillante envers le jeu vidéo, même si c'est vrai que c'est clairement du pinaillage, mais c'est vrai que, alors peut-être ce sera le thème d'un deuxième bouquin, mais je veux dire, je pense que c'est plus selon l'angle du game design qui mériterait à être vu le jeu vidéo. Et c'était vraiment, je trouve, le problème avec... c'est peut-être inhérent d'ailleurs à ce genre d'expo, même ne serait-ce que game, même si dans game, jeux vidéo à travers le temps, on peut jouer dans l'expo aux arts ludiques. L'art dans le jeu vidéo, on pouvait vraiment pas jouer. Et c'est vrai que même la dénomination l'art dans le jeu vidéo, il n'y a aucune manette, ça parle jamais de game design, alors que c'est discutable, hein, mais je pense que c'est ce qui fait la spécificité du jeu vidéo, et c'est dommage de pas l'aborder comme ça, parce que du coup ça engage les gens, en fait, les non-initiés, sur une piste qui est fausse, dans le sens où ils vont se dire, bah, jeu vidéo c'est pas un art en soi,
ou biaisé,
mais c'est un regroupement de tout un tas d'arts. et quand il y a cette pour les non-initiés, nous c'est facile de se défaire de cette image, parce qu'on y joue constamment, donc même inconsciemment on a des règles de game design, on se dit, oui, effectivement, dans ce jeu-là, notamment, par exemple, moi, j'aime bien prendre l'exemple de Portal 2, qui est vraiment très très bien foutu au niveau du game design, et je trouve que c'est vraiment à travers cet aspect-là que devrait être abordé le jeu vidéo.
Moi, j'ai mis en avant quand même, c'est là où je te reprendrai, je comprends bien sur le game design, même si j'ai moins fait sur le game design. C'est vrai dans le bouquin, ça c'est sûr. Par contre, j'ai beaucoup plus insisté moi sur quelque chose. Alors c'est peut-être de l'empathie, c'est un peu biaisé, mais sur le level design.
Tu fais une différence entre.
Ah oui.
Enfin, je sais qu'il y a une différence entre le narrative design, le level design, le game design.
Pour moi,
le level design,
on est vraiment dans l'art d'un art architectural de. Pour le coup, c'est vraiment de l'architecture interactif avec l'idée de. Pour moi, le game design, on est plus dans les règles du jeu, mais c'est. Ça peut. Le game designer peut être level designer, tout ça, c'est encore des métiers qui sont. C'est pas nouveau, mais enfin.
Connectés,
ou connectés, qui peuvent se mélanger, qui peuvent se séparer, etc. Mais le level designer, par exemple, dans un jeu de forme, c'est ultra important. Enfin, il faut un level designer, il faut qu'il fasse les niveaux. Enfin, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas forcément le game designer. Voilà. C'est, ça peut être les deux, ça peut être machin. Moi, le level designer m'intéressait beaucoup à cause de sa tendance, de sa passion pour l'architecture. Et je trouvais ça très très intéressant. Parce que l'architecture, par exemple, n'est, suivant les périodes, jamais reconnue parfois comme un art et parfois pas reconnue comme un art.
Voilà. Oui, comme au Moyen-Âge, ce qu'on voit dans le livre.
Exactement. Parce qu'il a cette, comme le jeu vidéo, il a cette espèce d'ADN scientifique. Et du coup, il dit, mais oui, mais bon, c'est de l'utilitarisme, c'est des bâtiments, on s'en fout, enfin, c'est pas de l'art. Et or, certains disent, bah si, c'est de l'art. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut quand même, voilà. Et je pense que le level designer, alors, les game designers aussi, a cette espèce de cul entre deux chaises, voilà. Purement et simplement, c'est-à-dire qu'il crée de l'architecture virtuelle, et parfois on le reconnaît comme artiste, et puis parfois pas. Je trouvais le parallèle intéressant.
Donc oui, c'est le level designer, c'est à la fois de l'utilitarisme, parce que faut bien avancer dans le jeu, faut bien effectivement qu'il y ait une structure dans laquelle le joueur soit enfermé, entre guillemets, mais en même temps, si c'est moche, si c'est pas intéressant à regarder, si c'est pas intéressant à parcourir...
À faire, oui, c'est ça, on se chie, exactement, c'est pour ça que là, il y a le game designer qui va dire, non, mais là, on s'emmerde,
Le boulot du game designer, c'est le level designer, vas-y, sans déconner, on s'emmerde.
Là, on s'ennuie dans ton truc, c'est pour ça qu'un Bloodborne, par exemple, on parle beaucoup de level design assez génial dans Yharnam, voilà, c'est qu'effectivement, si on faisait une maquette en 3D de... de Yharnam, du centre de Yharnam, ça serait assez fascinant à regarder. Enfin, c'est complètement taré, quoi. Voilà. Voilà, ce serait intéressant.
Ça pourrait être une idée pour une prochaine expo, ça, d'essayer de demander à des gens d'aller faire... Parce que j'ai vu plein de gens qui faisaient ça, enfin qui essayaient de faire ça, en tout cas. C'était d'aller justement sortir des cartes 3D de vrais jeux, c'est-à-dire en allant extraire, faire du data mining dans les jeux, et d'aller vraiment montrer la carte d'un Metroid Prime. Donc, voilà, ça c'est la carte complète en 3D du jeu qu'on peut naviguer dedans et tout ça. Est-ce que c'est le genre de choses qui pourrait être intéressant éventuellement pour une prochaine expo, si t'arrives à trouver des gens qui soient capables de faire ça, d'essayer de faire un truc qui soit vraiment purement axé sur le level design, par exemple, ou... Ou alors tu penses que ça pourrait pas attirer assez de monde et qu'il faudrait mieux mettre ça peut-être en
complément? Non, c'est pas ce que je ferais. Moi, je ferais le... On a failli le faire, mais c'était compliqué à faire. Alors, on l'a un peu fait quand même dans l'Expo Game à la Fondation EDF. Hein. C'est-à-dire, c'est transformer le lieu en niveau de jeu vidéo. Par exemple, quand on rentrait dans... On avait fait attention de quand on rentrait dans la salle, on ne pouvait pas voir tous les jeux présentés au rez-de-chaussée. Parce que comme dans un jeu vidéo, il y a toujours des niveaux cachés ou des pièces cachées ou des choses comme ça.
Ah, sympa. Ouais.
Et ça c'est un risque parce que bah quand tu rentres quelque part, t'aimes bien qu'on t'en mette la gueule et que tu vois tout. Parce que si tu vois pas tout, tu peux faire demi-tour, il y a des trucs qui t'intéressent, etc. Mais la volonté avait été et c'est un fait exprès, de cacher au maximum pour qu'on puisse derrière, on puisse voir, il y avait le Dance Dance. Dance Revolution et la... Et pourtant il y avait des chouettes trucs, hein. Il y avait Outrun, il y avait la Boonboard d'arcade, totalement collector génialissime que j'adore, mais elle était impossible à voir d'entrée. Et ça c'était une manière de faire, mais j'irais peut-être même plus loin, voilà.
Les pourtant... boss c'était les vigiles ou pas?
il y en avait un paquet là, on était effectivement plus dans Bloodborne que d'ailleurs, dans un Kirby quoi, je crois que c'était moins Kirby.
D'ailleurs, il y avait un t-shirt Vous êtes mort.
Ouais, c'est ça, ouais. Arrivé. Voilà, mais voilà, moi c'est ce que je ferais. Je ferais carrément un level design sans que les gens s'en rendent compte forcément, parce que je veux pas qu'ils s'en rendent compte, mais avec des bonus cachés, les couloirs, par exemple, dans les couloirs, il y avait des vieilles publicités sur le jeu vidéo, de jeux vidéo.
Oui,
c'était fait exprès parce que généralement, dans les couloirs de jeux vidéo, il y a toujours quelque chose, voilà, où il y a une surprise, où il y a un machin, bon bref, il s'y passe toujours.
Est-ce qu'il y a des easter eggs dans le bouquin? Est-ce qu'il y avait un easter egg à l'exposition qu'on a fait?
La vraie question.
Oui, il y avait des easter eggs, il y en avait plein. Là, il y avait une chambre constituée, au rez-de-chaussée. Alors c'est là qu'on voyait absolument pas ni en premier ni en deuxième niveau. Il fallait vraiment s'avancer au fin fond de la pièce. Et donc il y avait une pièce d'enfant des années 70.
Ah oui, derrière, oui.
Reconstituée, etc. Voilà, et là-dedans, il y avait plein d'easter eggs parce que c'est un peu toute ma life. Donc, il y avait un peu toute ma jeunesse quand même. Donc,
d'accord, ouais. D'où la citation de Player One dans la partie hors-série du bouquin, c'est ça?
Voilà, c'est ça, exactement.
Ouais.
Donc, il y a des easter eggs dans le bouquin. En fait, le bouquin a fait du level design aussi. Hein. Ça va pas l'air comme ça, mais c'est le bouquin dont vous êtes le héros.
Après, je suis pas level designer frustré. Hein. Je reste d'être level designer. Mais je trouve que l'idée de départ, en tout cas de l'expo à la Fondation, c'était de recréer, autant que faire se peut, et avec les moyens qu'on avait, de recréer un niveau de jeu vidéo. C'était vraiment le... Et je pense que j'irai plus loin, en fait, cette idée-là. J'irai encore plus loin.
Sympa.
Juste pour conclure, parce que là, l'émission va commencer à toucher à sa fin, puis tu vas commencer à être fatigué. Parce que monsieur se lève tôt le matin, contrairement à nous qui sommes feignasses, hein, je veux dire, non, mais c'est important. C'est important de laisser les gens dormir.
C'est important de dormir, surtout. Pour quelqu'un qui dort pas comme moi, je disais, c'est très important.
Ouais. Non, mais voilà, ça a pas l'air comme ça. Pour les gens qui ont facilement tendance à la dépression, avoir un bon sommeil, c'est important. ceux qui ont la référence, hein, vous avez le droit de tweeter. non, mais comme ça, au moins, on fait une sorte d'émission interactive. tu as écrit un premier bouquin, Art et jeux vidéo, qui finalement, comme on l'a vu, est quand même beaucoup plus une espèce d'ouverture pour les non-joueurs et peut-être...
Plein de clés, ouais.
Prise de conscience pour les joueurs. Je pense que c'est un peu comme ça que je l'ai perçu de tout ce que vous avez dit.
Ouais. Mais j'aime bien l'idée que les joueurs disent ouais, je connais déjà, c'est bon, je me saoule. Mais l'histoire de l'art, je connaissais pas, c'est vachement intéressant. Je trouve ça intéressant parce que je comprends bien qu'on puisse nous saouler encore avec l'histoire du jeu, etc. Même si j'essaie de la traiter un peu autrement avec les mêmes données, hein, que tout le monde connaît, mais autrement avec un autre angle. Mais qu'on puisse se dire ah, mais tiens, c'est quand même vachement intéressant l'histoire de de l'art, parce que encore une fois, on nous a mal présenté cette histoire de l'art. C'est exactement l'histoire de Stephen King, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'à force de nous présenter le Tintoret, artiste vénitien, blablabla, bon, revenons un peu au terre à terre. C'est un mec qui aimait beaucoup le pognon, qu'on a grillé pas mal, qui était un génie, hein, de vrai artistique, dans le sens où c'était un pur génie de la peinture, mais par exemple commercialement, il a pourri tout le monde. Enfin bon, sa vie est absolument géniale à lire. Parce que c'est là où on se rend compte que, oui, bon, c'est un humain. Quand on lit des développements chaotiques de jeux vidéo, ben on se rend compte aussi que il y a des hauts, il y a des bas, enfin il y a des choses très humaines, qui peuvent nous paraître un peu incroyables. Et donc, je les mettre au même niveau, c'est-à-dire jeux vidéo et art, c'est-à-dire sculpture, peinture, architecture, c'était aussi une manière de dire, oh, stop, arrêter de nous mettre sur un piédestal à chaque fois et nous exclure en train de dire voilà. En plus, je pense que dans le jeu vidéo, il y a des gens qui sont généralement cinéphiles, qui adorent les séries, enfin qui ont une appétence, ils sont super, on est super gourmand quand même de littérature, enfin de tout ça, plus que peut-être que d'autres. Et on est toujours envoyé à une culture pop, effectivement, de seconde zone, que pourquoi pas. Hein, moi j'aime bien aussi, hein, le truc papouilleux, tout ça, ça m'a de saveur. Hein. Un petit Doom de temps en temps, ça fait pas de mal, mais oh oui. on est sans cesse renvoyé à cette image-là qui est fausse, parce que nous, on joue le contraire. Hein, voilà. Enfin, il nous arrive de jouer le contraire. Donc voilà, c'est aussi une manière de dire ça. Et du coup, je suis content que ça donne peut-être des idées de se dire, ah bah tiens, je vais aller voir chez les impressionnistes, parce que c'est génial, les impressionnistes.
L'histoire de l'art est un des grands oubliés de l'école de la République. Il n'y a pas que moi.
C'est beau, cette phrase. Ça fera pas un clickbait.
c'est une réalité. L'histoire de l'art est très peu étudiée à l'école et je trouve ça très dommage. Et c'est vrai que tu as réussi à introduire. Ah non, il n'y a rien de sexuel. Hein,
what?
Non, parce que ça
y est. Moi, je vais quitter cette émission.
Mais il est 21h22, donc là, c'est l'heure de la blague grivoise. Hein, on est quand même.
On a un quota.
Monsieur Cota de blague raciste, hein, c'est bon, on l'a déjà fait tout à l'heure.
Ah, j'ai pas fait.
Merde, on a pas fait une blague sur les roues tout à l'heure. Si, c'est bon, on l'a fait. Voilà, mais je trouve ça intéressant, effectivement, d'aller amener des gens qui ont cette espèce de culture pop et tout ça, et d'aller les amener vers autre chose. Ouais. Est-ce que toi, en termes de bouquin, t'as envie d'écrire d'autres choses? Est-ce que tu as envie de donner peut-être une suite à ce livre?
Voilà, bah, je sais pas, en fait. Alors, je sais pas que j'ai fait le tour, mais...
Tu penses que tu aurais pas un bouquin complet à dédier au level design, par exemple, avec peut-être, je sais pas, des parallèles avec l'architecture? Moi, je suis un passionné d'architecture, donc c'est vrai que c'est le genre de truc qui m'intéresserait énormément, d'arriver à dire, bah, regardez, tel niveau, il est construit comme le musée Guggenheim, tu vois, c'est super intéressant.
Non, mais oui, par exemple, où je reparlais de Bloodborne, c'est-à-dire voir ce qui a été pris à... Qu'est-ce qui a été pris chez Hugo? Qu'est-ce qui a été pris chez Poe? Qu'est-ce qui a été pris à Notre-Dame de Paris? Enfin bref, ça peut être vachement intéressant. Je pense que si je refais un truc sur le jeu vidéo, je ferai la première partie, mais en plus gros, mais pas destiné à partir des collégiens. Un truc un peu plus universitaire. mais j'ai pas envie d'être entre guillemets juste pour les universitaires. Ça m'enquiquine aussi, ça m'emmerde. Ouais, j'ai envie d'être juste.
Sinon c'est pas marrant, quoi.
Ah non, mais si c'est pour faire un truc un peu niche, déjà que c'est niche, un livre sur le jeu vidéo, on s'en sort pas, voilà, si c'est niche de chez niche. Et pourtant, je pense que le sujet est vraiment passionnant. Je vais animer je vais présenter un sujet là, à l'École Normale Supérieure en juin prochain. Il y a un colloque qui a l'air génialissime, vraiment, qui s'appelle Littérature et jeux vidéo. Je pense que ça va être vraiment, 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 vraiment génial.
Oh, punaise.
Ouais. Il y a plein de thématiques de Harry Potter à Lovecraft.
Pendant le bac.
À Homer, etc. Donc avec des gens, qui ont ou un peu gratté ou qui sont carrément des universitaires. Moi, c'est pas mon cas. Donc moi, je vais présenter, par exemple, un truc sur Homer, entre l'Iliade et l'Odyssée, parce que je trouve que le jeu vidéo est un peu entre ces deux monuments de la littérature grecque.
Ouais, t'en parles vite fait, j'ai envie de les relire, du coup.
un peu comme God of War.
C'est ça.
J'allais citer cet exemple. C'est vrai qu'en ce moment...
Oui, on est un peu servi. Je vais en faire un truc un peu plus long, d'une 20-25 minutes. Donc ça, je trouve ça intéressant. Là. Je me dis, ah mais tiens, ça va grossir tout ça et regarder le level design qui me passionne. Mais je ne referai plus une histoire du jeu vidéo, etc. etc. parce que bon, voilà, les gens en ont un peu marre. Les passionnés connaissent. Et les autres n'ont pas assez de curiosité. C'est pas assez de curiosité, mais comme ils jouent pas, c'est déjà compliqué de lire un bouquin sur le jeu vidéo, laisse tomber. Voilà, donc... Ouais, non, non, mais, je
non, mais en fait, j'ai les bouquins sur le jeu vidéo, j'ai essayé, c'est nul. Ne le faites pas.
Ouais, voilà. Alors, le jeu vidéo, c'est nul, puis alors les bouquins sur le.
Bah, il y en a de plus en plus, hein.
Non, non, mais. Plus. Voilà, si,
tiens,
si
tiens.
Je continuerai comme ce sont des portes un peu ouvertes. Voilà, peut-être continuer à les creuser, puis. Si je fais un bouquin, ce sera plus.
D'accord. Bon. Bah écoutez, on va se quitter là-dessus parce que là c'est bon, on a mis une heure dans la boîte, on est bien.
Cool.
On est à peu près dans les durées standards.
Bah, merci, hein. Merci, c'est génial.
Merci à toi.
Mais merci à toi.
Merci pour vos questions, votre lecture, votre temps.
C'est très gentil de nous remercier, sachant que nous on est 100% amateurs, donc on n'est pas.
C'est très bien. Hein.
On n'est pas payé pour. On te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu et d'avoir pris un peu de ton temps et de nous l'avoir consacré. C'est quand même pas rien. Quand on est une célébrité mondiale, hein,
on
ne peut pas se permettre ce genre de choses. Voilà, non, mais d'être venu dans un petit podcast de gens qui font des choses très honorables dans
le petit
petit. Petit, avec une ambiance un petit peu particulière. Voilà. Ah. Je suis désolé.
Qu'il y a
c'est bon.
Moi, je trouve qu'on était beaucoup trop sérieux aujourd'hui. Ça n'a pas digressé.
Ça change. Ah non, mais c'est mon tunnel qui a foutu un malaise.
Ouais, t'as foutu la merde.
Ma mère écoutait, j'ai été sage.
Moi, ma maman n'écoute pas, et heureusement. Je pense que c'est ça. Donc, nous, on va tous se retrouver la semaine prochaine où on parlera de, je sais pas encore, parce que cette émission est extrêmement bien préparée. Logiquement, on va faire les rumeurs de l'E3, je pense qu'on va se garder le sujet conservation du patrimoine du jeu vidéo
un petit peu plus tard.
On va peut-être prendre un peu plus de temps, voilà. On va essayer
les rumeurs de l'E3, vaut mieux attendre la semaine avant l'E3 pour les faire sans parler le plus possible.
Je crois qu'il y a déjà, en plus, ça va parler mal, mais je crois qu'il y a déjà Julien Chies qui a sorti une vidéo sur les rumeurs de l'E3.
Allez, ça y est.
Alors, comme d'habitude, hein, voilà, donc nous on se retrouve la semaine prochaine. Julien Chies, si tu nous écoutes, va te niquer. Voilà. C'est une tradition.
Mais ouais,
d'accord, ouais. C'est votre manière de dire au revoir.
C'est un peu
particulier, je veux dire.
Oh, ah voilà, pas comme ça.
Si, on l'aime pas. Enfin, moi je l'aime pas.
D'accord.
Il viendra un jour.
On aimerait beaucoup l'avoir dans cette
émission. Ouais, invitez-le parce qu'il vient.
Faut pas qu'il écoute les rediffs. Hein.
Non, faut pas qu'il écoute les rediffs.
En plus,
promis, je vous le ramènerai.
Tu t'es donné un défi, t'as intérêt à aller jusqu'au bout.
Ouais, comme Best of Off.
Comme le Best of Off, de la même manière.
On l'attend toujours celui-là.
On va se quitter, on se retrouve la semaine prochaine. Oh. Merci à tous de nous avoir suivis, merci Jean Z d'avoir été là.
Merci à tous.
Bye.
Ciao.
Bisous. Wow.